Loué soit le Seigneur. C'est tellement bien de revoir tous ceux ici. N'est-ce pas un temps merveilleux que nous soyons tous mélangés et que nous connaissons le désir de son cœur? J'aimerais commencer par ici. Dans l'éternité passée, le Dieu qui connaît tout, tout puissant, il avait un problème. Étant riche, insondablement riche et parfait, mais en ce qui concerne son sentiment en lui-même, il se sent seul. Il sent qu'il a besoin d'une contrepartie, un complément. Il se sent qu'il a besoin d'une contrepartie pour le compléter. En d'autres mots, notre Dieu célibataire a un désir de se marier. C'est pour ça qu'on dit que la Bible est une romance. C'est une histoire de comment Dieu veut sortir avec l'homme pour éventuellement marier l'homme. Dans la Bible, il se révèle comme un marié. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, comme un mari, et dans le Nouveau Testament, un marié. Dans Genèse, il y avait l'homme et une femme qui est devenue une seule chair. Et dans le Nouveau Testament, à la fin, on voit l'Esprit et la mariée qui devient un, et ils parlent comme un. Donc, cette ligne dans la Bible n'a jamais dévié. Et il faut que nous joignions à cette ligne. Il faut que nous joignions à cette histoire d'amour. C'est la romance des romances, parce que c'est une romance divine. Les autres romances, que ce soit fictif ou dans la vraie vie, ce sont seulement des ombres, des portraits de cette romance divine. Quand je sortais avec ma femme, avant qu'elle était ma femme, je lui ai dit, tu es le numéro 2, parce que Dieu est le numéro 1. J'espère que tu as aussi cette réalisation. Parce que si j'ai pas une romance avec Dieu, j'ai pas la capacité de t'aimer. Et si, même la même chose pour toi, si tu n'aimes pas Dieu, je ne fais pas confiance en ton amour envers moi. Donc, dans la Bible, Dieu a tant aimé le monde qu'il est devenu un homme pour nous courtoisir, sortir avec nous. Et on voit comment il est venu. Il est venu pour nous racheter, pour être mort pour nous. Il est devenu l'Esprit qui donne la vie et il est entré en nous. Et c'est pour ça que nous sommes des croyants. Mais si je peux dire comme ça, le moment où tu as cru au Seigneur, en fait, tu as été fiancé au Seigneur. C'est comme dans Éphèse qui nous dit que nous sommes scellés avec l'Esprit. Et Paul nous dit dans 2 Corinthiens 12 que engagé, fiancé à un seul marié, comme une vierge pure à Dieu, à Christ. Nous sommes fiancés à Christ. Est-ce que tu réalises cela? Pour ceux qui sont soit fiancés ou mariés, peut-être Richard, c'est quoi la première question que les gens te demandent quand tu t'es fiancé? C'est quand la date? Quand est-ce que tu vas te marier? Les fiançailles, c'est juste un processus pour le grand jour, le jour des noces. Je peux vous dire que depuis la date où il était fiancé, il était très occupé parce qu'il y a une autre date plus importante, la date de mariage, pour planifier tout ça. Et les étudiants, et nous, c'est quoi notre sentiment par rapport à nos fiançailles à Christ? Peut-être que nous pensons, ça va prendre beaucoup de temps, ça va être plus tard. Mais non, il faut qu'on soit préparé pour le mariage de Christ et l'Église. Donc, ce message est pour la préparation de la mariée. Comment est-ce que nous pouvons nous préparer pour le mariage? Tout le monde veut avoir des A dans notre bulletin. Tous les A sont merveilleux, mais ça demande du temps pour préparer. Donc, dans ce message, dans le plan, j'aimerais partager quatre fardeaux. Tu peux oublier tout, mais souvenez-vous de quatre points. Premier point, il faut avoir un amour frais pour le Seigneur. Numéro deux, il faut qu'on soit sanctifié par la séparation et la saturation. Numéro trois, il faut que nous soyons belles, beaux, embellis par le lavage dans la parole. Le lavage de l'eau de la parole. Numéro 4, il faut que nous soyons édifiés en tant que sa mariée. Donc voilà les quatre points. Revenons au point 1. Comme beaucoup de frères ont déjà partagé, il faut que nous ayons un amour frais envers le Seigneur. Chers saints, comment est votre amour envers le Seigneur? Tournons au 1 Corinthiens 2, 9. Tout à fait. Lisons 1 Corinthiens 2, 9, tous ensemble. Mais comme il est écrit, des choses que l'œil n'a pas vues et que l'oreille n'a pas entendues, et celui et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment. La note 3 au verset 9. Je vais vous lire. Pour réaliser ou participer aux choses profondes et cachées que Dieu a ordonnées et préparées pour nous, nous devrions nous non seulement croire en lui, mais aussi l'aimer. Il ne suffit pas de craindre Dieu, de l'adorer et de croire en lui, c'est-à-dire le recevoir. La nécessité absolue est de l'aimer. Aimer Dieu signifie placer tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps avec le cœur, l'âme, l'intelligence et la force entièrement sur lui. Amen. C'est-à-dire laisser toute notre personne être occupée par lui et perdue en lui, afin qu'il devienne tout pour nous et que nous soyons un avec lui pratiquement dans notre vie quotidienne. De l'aimer, c'est la nécessité absolue. Si nous voulons le gagner, si nous voulons participer à cette romance divine, il faut l'aimer. C'est la nécessité absolue. Seigneur, ravive notre amour envers toi. Il faut, comme les frères ont dit, il faut que nous soyons romantiques avec le Seigneur. Chaque fois que vous passez du temps avec le Seigneur, c'est un temps de prendre une marche avec le Seigneur. tant qu'on a la présence du Seigneur. Des fois, on est trop religieux. Dans les réunions, on sait ce qu'on doit faire. On fait tout d'une façon religieuse. Oh, pourquoi pas aimer le Seigneur avec tout notre cœur et que nous oublions tout. Nous nous donnons tout au Seigneur. À Vancouver, que ça pleut ou c'est ensoleillé, c'est pas grave. À Vancouver, ça pluie beaucoup. Mais on peut marcher avec le Seigneur dans la pluie. Il y a 20 ans, quand j'ai rencontré le Seigneur, c'est toujours frais dans ma mémoire. Après que j'ai cru au Seigneur, j'ai dit à mon ami que je suis en amour. Et il m'a demandé, c'est qui la fille? Et j'ai dit, J'ai dit, la fille, c'est moi. Et il a dit, mais tu es fou. Il faut que nous soyons fous à un point que nous ne nous soucions pas de ceux qui sont autour de nous. De notre côté, peut-être ces frères ici, ils peuvent aimer le Seigneur, mais moi, je ne peux pas aimer le Seigneur. J'aimerais souligner un autre verset, Luc chapitre 7. La raison pour laquelle nous aimons le Seigneur, c'est pas que nous avons la capacité de l'aimer. Mais l'histoire dans Luc 7, où il y a une femme dans la ville, elle était pécheresse. Et là, tu peux mettre ton nom ici. Au lieu de la femme, tu peux mettre ton propre nom. Nous sommes tous des pécheurs comme elle. Cette femme a déversé l'onction dans la vase d'albâtre. Et les autres, ils ont dit, ah, est-ce que cette femme savait le prix de ce parfum? Les pharisiens ont dit, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est cette femme qui le touche, car c'est une pécheresse. Verset 41. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. 42. Comme il n'avait pas de quoi payer, il pardonna à l'un et à l'autre. Lequel aimera donc le plus? Le frère, sur 43, Simon répondit, « Je suppose que c'est celui à qui il a pardonné le plus. » Et il lui dit, « Tu as bien jugé. » Simon a dit, « Je suppose. » Ça veut dire que il n'y a pas d'expérience subjective de le pardon. Il dit, je suppose. Peut-être que notre sentiment, c'est, ah oui, je suppose que je devrais aimer le Seigneur. Je suppose que je devrais faire quelque chose. Mais plus tard, le Seigneur a dit, qu'est-ce qu'il a dit à la femme? 46, verset 46. Tu n'as point oint ma tête d'huile, mais elle a oint mes pieds avec un parfum. Je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé, mais celui qui a à qui on pardonne peu, aime peu. Je sais que beaucoup d'étudiants ils observent la vie et la conduite des serviteurs. Oui, peut-être que les serviteurs aiment le Seigneur un peu plus que les étudiants, mais c'est à cause, c'est parce que nous réalisons que nous sommes pécheurs et que nous sommes pardonnés. Donc, puisque nous sommes pardonnés beaucoup, nous aimons le Seigneur beaucoup. Chers saints, c'est jamais trop tard. Tournez à lui, tout, juste comme tu es. Quand tu fais l'expérience de son pardon, tu vas faire l'expérience d'aimer le Seigneur. Il est devenu si aimant, si merveilleux. Quand quelqu'un aime le Seigneur, il sera si fou et si aimant au Seigneur qu'il va offrir tout pour le Seigneur. Venons au plan. Lisons le titre de ce message. Christ aime et sacrifie pour l'Église. Tous les frères, Christ s'est donné sur la croix non seulement pour les croyants individuellement, mais pour l'Église. Il est Christ qui aime l'Église. Souligner que qu'il est Christ qui aime l'Église. D'un côté, Dieu a tant aimé le monde. Et Paul dit qu'il m'a aimé et il s'est sacrifié pour moi. Il faut que nous ayons tous une expérience personnelle avant le Seigneur. Ça veut dire que même si tu es la seule personne sur la terre, Dieu viendra pour être mort pour toi. Dans Éphésiens, ça dit, Christ a aussi aimé l'Église et il s'est donné lui-même pour elle. Il s'est donné pour l'Église parce qu'il aime l'Église. Pour Romains 2, les sœurs, le but de Christ, par son amour pour l'Église et par son sacrifice pour elle, était de sanctifier l'Église. S'il vous plaît, soulignez sanctifier l'Église. Afin de correspondre à lui, afin d'être sa contrepartie, il faut que nous soyons sanctifiés. Les frères, la signification de la sanctification dans la Bible est de se séparer des choses communes. Souligner, se séparer des choses communes. Dans l'Ancien Testament, quand quelque chose est mis dehors du temple, ça devient commun. Mais quand on met des objets, des choses à l'intérieur du temple, ça devient sanctifié. Donc, il faut que nous soyons séparés de beaucoup, beaucoup de choses communes. Positionnellement, quand nous sommes régénérés, nous sommes en Christ, positionnellement. Mais, le point B, les sœurs, du côté négatif, d'être sanctifié n'est pas uniquement de se séparer du péché, mais du monde et aussi toutes les choses mondaines, de tout ce qui n'est pas de Dieu et pour Dieu. Souligner mais du monde et aussi toutes les choses mondaines. C'est les versets ici, 2 Timothée 2, 20 à 22. Lisons 29. 2 Timothée 2, 20. OK. 2 Timothée 2, 19. Toutefois, le solide fondement de Dieu subsiste ayant un sursaut. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'injustice. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur connaît que tu appartiens à lui. Mais ça continue. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'injustice. Et le verset suivant, les sœurs. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Et les uns sont pour l'honneur, et les autres pour le déshonneur. Ce qui est... Okay. Le bois est quelque chose de la chair déchue. 21. Si donc quelqu'un se purifie de ces derniers, il sera de vase pour l'honneur, sanctifié, utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre. C'est-à-dire, si quelqu'un se purifie de ces derniers, et le dernier verset que nous connaissons tous, 22, « Mais fuis les convoitises de la jeunesse et poursuis la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Fuir les convoitises. » Est-ce que vous voyez ces versets? Il faut s'éloigner de l'injustice. Il ne faut pas être du bois et de terre. Il faut être purifié et il faut fuir les convoitises de jeunesse. Beaucoup de fois, à l'école, au travail, peut-être ces choses-là ne sont pas pécheresses, mais ils sont mondains. Ils ne sont pas de Dieu. Et pour cela, il faut s'exercer pour s'éloigner de ces choses. Dieu est juste et Dieu est saint. Et c'est sûr que c'est difficile. C'est pour ça qu'on a le point suivant, le point C. Du côté positif, c'est d'être saturé avec l'élément divin de Dieu. Souligné, saturé. Saturé avec l'élément divin de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5, 23, nous utilisons ce verset beaucoup, mais nous, c'est toujours dans le contexte des trois parties de l'homme. Mais ici, ça dit, le Dieu lui-même, le Dieu de paix, vous sanctifie pleinement. Dieu veut sanctifier tout ton être, ton esprit, ton âme et ton corps. Le point A. L'intention de Dieu n'est pas d'avoir de bonnes personnes à la place des mauvais. Que nous soyons bons ou mauvais, nous nécessitons l'ajout de l'élément de Christ en nous. Amen. Dans Éphésiens, nous connaissons tous ce verset que Christ veut faire sa demeure dans nos cœurs. Ce n'est pas une question de bon ou mauvais, mais c'est une question de Christ pour faire sa demeure dans nos cœurs, pour faire sa demeure, de s'éteindre dans notre cœur, s'étendre dans notre cœur. Faire sa demeure, c'est beaucoup plus important que bon ou mauvais. Nous étions ici à Montréal depuis mardi. Et si je disais aux frères à Montréal, « Ah, nous allons faire notre demeure ici à Montréal, à jamais. » Mais on peut pas faire ça, parce que c'est pas notre maison, c'est la maison des saints à Montréal. Donc, quand quelqu'un entre dans notre maison, si nous voulons que Christ fasse sa demeure en nous, ça veut dire qu'il veut occuper chaque partie de notre cœur. Il veut prendre les décisions. Il a des sentiments. Il veut saturer et aller dans toutes les salles, les pièces dans la maison. Il veut occuper tout notre être. Ça veut dire ça quand on dit Christ veut faire sa demeure dans nos cœurs. Le prochain point. Dieu désire dispenser l'élément de Christ dans notre être quotidiennement. Et c'est seulement par cet élément que nous pouvons être sanctifiés. Souligner quotidiennement, dispenser quotidiennement. Est-ce que nous recevons la dispensation quotidiennement ou peut-être hebdomadairement ou peut-être mensuellement? Mais afin de nous saturer, il a besoin que nous recevions cette dispensation-là quotidiennement. Dans 1 Pierre dit, pour toi qui es appelé, il faut que tu sois saint dans toute votre manière de vivre. Et dans Éphésiens, tu es saint comme je suis saint. Nous avons tous reçu le Dieu saint dans notre être. Et il veut nous faire saints, que nous soyons saints comme lui, il est saint. Et mon deuxième fardeau, il faut que nous soyons sanctifiés par deux choses, par la séparation et par la saturation. D'un côté, nous s'éloignons de toutes les choses négatives, tous les éléments négatifs, tout le monde, mais du côté positif, nous sommes en train d'être saturés par Christ. Tournons à un autre verset. 1 Pierre 4:3, je crois. Les frères, verset 3, les sœurs, 4. Car le temps passé vous a suffi pour accomplir les désirs des païens, ayant marché dans les dérèglements, les convoitises, la luxure, l'ivrognerie, les beuveries et les idolâtries illicites. 4. En ceci, ils trouvent étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même déluge et débauche, et ils vous diffament. Verset 4 dit, il trouve étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même déluge. C'est ça le monde dans lequel nous nous trouvons. Le monde qui est rempli de toutes les choses mauvaises. Ça dit, le déluge de débauche, les convoitises, la luxure, l'ivrognerie. On fait face à toutes ces choses dans cette génération. Le monde est rempli de toutes ces choses. Et ils pensent, ils trouvent étrange que vous ne vous participez pas à ces choses-là. J'espère que nous allons avoir cette réalisation qu'il faut que nous soyons sanctifiés. La séparation et la saturation. Nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes des vases pour l'honneur. Nous sommes des vases qui contiennent l'honneur de Dieu. Et Dieu nous prépare pour être des vases de gloire. Si nous voyons vraiment ce point, vraiment, il va changer notre vie, notre manière de vivre. Le Dieu d'honneur habite en moi. Chaque jour, il faut que je reçois une dispensation fraîche. À Vancouver, chaque vendredi soir, il y a une réunion collégiale. Chaque vendredi soir, je dis à mes amis, désolé, je peux pas aller à telle fête parce que j'aime le Seigneur trop. J'ai besoin d'être avec les saints. Le Seigneur Jésus nous sauve. Sauve-nous de cette génération corrompue. Sanctifie-nous en fuyant les convoitises. Continuons. Point Romains 3. Point Romains 2. L'œuvre de Christ pour la sanctification de l'Église est accomplie par le lavement avec l'eau de la parole. Souligné par le lavage avec l'eau de la parole. C'est ça le prochain fardeau. Il faut qu'on soit embelli par le lavement ou le lavage avec l'eau de la parole. D'un côté, nous parlons de lavage par le sang de Christ, mais ici, c'est le lavage de l'eau de la parole. Lisons le point prochain. Point A. Le mot grec pour parole en verset 26 n'est pas logos, la parole constante, mais rhéma, qui signifie la parole instantanée, la parole présente que le Seigneur parle à nous. Surligner logos, la parole constante, et rhéma, la parole instantanée. Point 1. À la fois, logos et rhéma sont la parole de Dieu. Cependant, le premier est la parole de Dieu enregistrée objectivement dans la Bible. Puis, le deuxième est la parole de Dieu qui parle à nous dans une occasion spécifique. Et plus tard, j'aimerais parler de la différence de logos et rhéma. D'un côté, c'est différent, mais de notre côté, il faut faire attention de vraiment séparer ces deux-là. Acte 15. Dans Acte 15, la parole, même qu'il a écrit, pardon, acte 15, 20. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles. Cette parole ici en grec, c'est le rhéma. Et Jean 6, 64. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Ici, la parole, c'est le rhéma. C'est instantané. Il y a des gens qui séparent très clairement logos et rhéma. Mais il faut faire attention. Il y a des gens qui disent que le logos, c'est le texte et le rhéma, c'est la parole instantanée. Mais notre fardeau ici, c'est que nous apprécions ces deux aspects et que nous connaissions ces deux aspects dans votre expérience. On aimerait donner des exemples de comment le logos peut t'aider et comment le logos peut être converti au rhéma. Tournons à Jean 15. Jean 15, verset 3. Vous êtes déjà propre à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est quoi la parole ici? Est-ce que c'est logos ou rhéma? C'est logos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le logos a même un effet de lavage, d'être propre. En lisant la parole, cette parole peut te laver. Cette parole peut te rendre propre. Maintenant, Matthieu 4. Matthieu 4, 4. Mais il répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » La parole ici, est-ce que c'est Logos ou Réma? C'est Réma. Quelqu'un a dit Logos. C'est Logos. Ça vient de Deutéronome 4:8. Que l'homme ne vive pas par la pain seulement, mais de tout ce qui provient de la bouche de Dieu. Donc, dans cette situation ici, le Seigneur, il a converti le Logos au Réma. Donc, avant que le tentateur ait venu, il a dû jouir de cette parole. Et donc, dans cette situation, il a changé, converti ce Logos au Réma. Il a appliqué la parole à une situation particulière. Maintenant, Jean 6. Jean 6, 60. Après avoir entendu cela, beaucoup de ses disciples dirent, « Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? » Qu'est-ce que c'est cette parole? Avant cela, le Seigneur a donné une parole de comment on a besoin de le manger. Et les disciples ont répondu, « Cette parole est difficile, est dure. » C'est quoi cette parole? C'est Logos. Parce que même si le Seigneur parlait le Réma à eux, pour eux, c'était le Logos. Ils ne pouvaient pas faire l'expérience. Et plus tard, dans le verset 63, c'est l'Esprit qui donne la vie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont vie. Cette parole ici, c'est Réma. Ça veut dire quoi? Combien nous avons besoin d'exercer notre esprit? Le Seigneur peut te donner du réma, mais pour toi, c'est le logos. Les frères peuvent vous donner une parole à toi, mais pour toi, ce n'est pas une parole instantanée. Donc, c'est juste le logos. C'est juste un texte, une théorie, une doctrine. Matthieu 26 maintenant. Verset 75. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant qu'un coq chante, tu me renieras trois fois. Et sortant, il pleura amèrement. Pierre se souvint de la parole. Cette parole, c'est Logos ou Réma? C'est Réma. Le Seigneur a parlé à Pierre avant qu'il l'a renié trois fois. Peut-être là, à ce temps-là, c'était le Logos. Ah, parce qu'il pensait, Pierre, qu'il était fort. Il ne va jamais renier le Seigneur. Mais après qu'il a renié le Seigneur, il se souvint de la parole de Dieu. Et cette parole-là, c'était le Réma. Et Pierre est allé pleurer amèrement. Et en fait, ce souvenir de la parole de Dieu, c'était un approvisionnement à lui. « Le fait qu'il a été restauré, c'était à cause du réma, de la parole instantanée. Point 2. Lorsque nous lisons la parole constante, logos, avec notre cœur et notre esprit, l'esprit touchera notre esprit. Il illuminera sur tous les mots que nous lisons afin qu'ils soient manifestés en nous. Souligner, l'esprit touchera notre esprit et illuminera sur tous les mots que nous lisons. Continuons au point 3. Nous nécessitons de prendre la parole vivante dans nos entrailles par la prière en esprit. Si nous faisons cela, la parole ne sera pas seulement la nourriture pour nous nourrir, mais aussi l'eau qui nous lave et qui nous sanctifie. Surligner par la prière en esprit. Prendre la parole vivante par la prière en esprit. Avec ce point-là, il y a deux points importants. Il faut lire le logos. Point 2. Il faut faire attention au réma. Je sais que lire la Bible chaque jour, c'est presque impossible. Mais je vous encourage vraiment. Apprends à lire le logos. Il y a beaucoup d'horaires, le Nouveau Testament chaque jour avec les notes de pied deux ans. Prends un horaire et lis la Bible. Le logos peut vraiment te laver. Quand tu fais face à beaucoup de situations, le logos peut être converti au réma et ça peut t'approvisionner instantanément. Dernièrement, j'appréciais beaucoup par rapport à la lecture de la Bible. Il faut lire la Bible et passer du temps avec le Seigneur, avec la douceur et avec la profondeur. Le mot douce, même en chinois, il y a un sentiment de goût, un bon goût. Donc, quand on lit la Bible, il faut que nous goûtions, il faut savourer la Bible. Chaque jour, il y a de la lumière. Chaque jour, il y a la douceur. Et aussi de lire dans la profondeur. Qu'est-ce que ça veut dire de lire avec profondeur? Ça veut dire que quand nous sommes dans quelque chose profondément, le temps passe vite. Donc, quand tu lis la Bible et tu n'es pas conscient du temps, ça veut dire que c'est profond. Mais peut-être nous, notre temps avec le Seigneur, nous regardons notre montre. Oh, déjà 5 minutes. Peut-être quand nous regardons Instagram, c'est vraiment profond. Peut-être 1 heure, 2 heures, on passe. Mais quand nous sommes dans la parole et nous ne sommes pas conscients du temps et nous sommes saturés avec la parole, là, c'est profond. Quelqu'un m'a dit, combien d'heures est-ce qu'on a dans une journée? 24 heures, est-ce que tu es sûr? Dans la recherche, des chercheurs ont dit, à cause des médias sociaux, on a en fait, à cause de toutes les multitâches que nous faisons avec les Facebook et les médias sociaux, en fait, une journée, il y a 31 heures à cause de toutes les tâches multiples. Sur nos téléphones intelligents, on a tout. Même moi, J'ai tellement d'applications de messagerie parce que il faut que je dois contacter les saints. Et il y a tant de choses qui peuvent me distraire. Ne multitâche, il faut jamais faire des multitâches avec le Seigneur. La dispensation vient seulement quand nous nous concentrons. Ça vient seulement quand nous regardons le Seigneur avec tout notre être. Je sens vraiment que cette génération, avec cette génération, c'est seulement la parole qui peut nous sauver. J'ai vu une image sur Facebook. Connecté socialement, physiquement isolé et mentalement perturbé. N'est-ce pas notre situation? Nous sommes tellement connectés. Nous sommes tout seuls et nous sommes distraits. Chers saints, tournons au Seigneur. Or, il faut se concentrer le Seigneur. Il faut lire le Logos et faire l'expérience du Réma. Point B. L'eau dans Éphésiens 2, 56, se réfère au courant de vie de Dieu. L'eau de vie, c'est rien d'autre que Dieu lui-même. Dans Jean 7, que quiconque vient à moi, l'esprit ou l'eau vive coulera de lui. Point C. Le lavement de l'eau de vie est différent du lavement de sang de Christ. Les frères, ce point 1. Le sang de Christ enlève nos péchés. Les sœurs, l'eau de vie enlève les défauts de la vie naturelle de notre vieil homme, incluant toutes les taches et rides. Souligné. Souligner les défauts de la vie naturelle. Et plus tard, point A. Les rides proviennent du vieillissement et les taches viennent des blessures. Point B. Le lavement de l'eau de vie accomplit l'œuvre de transformation, un changement métabolique dans lequel un nouvel élément est constitué en nous et un vieil élément est enlevé. Nous sommes tous dans le processus de devenir vieux. Moi, j'ai probablement beaucoup plus de rides que vous parce que je suis plus vieux. Disons que oui, je suis... des fois, les frères viennent ensemble Les jeunes gens m'invitent à jouer le basketball avec eux. Mais peut-être moi, je trouve des excuses pour ne pas jouer. Et moi, je prends plus de temps à s'étirer et tout. C'est un signe de vieillissement. Mais combien d'entre nous qui sommes physiquement jeunes, mais spirituellement très vieux? Des fois, on est en train de parler de plein de choses, mais là, quelqu'un dit, maintenant, prions ensemble, et tout le monde est silencieux. Pourquoi c'est comme ça? Parce que nous sommes vieux spirituellement. Oh Seigneur, sauve-nous de notre vieillesse spirituellement. Si nous sommes jeunes spirituellement, quand quelqu'un dit, prions, ben nous allons prier spontanément. Le Seigneur a besoin de nous guérir. Oui, nous avons le sang qui nous lave, mais aussi, il y a aussi des... comment dire, des points, des souillures. Et donc, on a besoin du lavage de l'eau de la vie. Ces temps-ci, nous sommes dans un voyage de mélange et on est très bien, mais en même temps, il faut se laver. Il faut se laver de l'eau de vie. Oui, on a le sang qui nous lave, mais peut-être qu'on a des sentiments où je peux pas abandonner ce point, je peux pas lâcher ce point, ce sentiment. Et pour ça, on a besoin du lavage de l'eau de vie. Continuons le point prochain. Prochain point. Par le lavement, ok, par le lavement, nous sommes saturés avec Christ et transformés par Christ à être saints, embellis, l'épouse qui exprime Dieu, l'épouse sans défaut ou imperfection. Le point focal, Christ s'est donné pour l'Église dans le but de la sanctifier par le lavement de l'eau de la parole, transformant l'Église pour être sa splendide épouse. En fait, il y a un dernier point. Il faut que nous soyons édifiés comme son épouse. Concernant le point de l'épouse, la romance est personnelle. Il faut que nous entrions dans cette romance pour entrer dans un temps personnel et intime avec le Seigneur. Et par rapport à la lecture de la Bible, c'est aussi personnel. Personne ne peut lire la Bible pour toi. Non, il faut que nous lisions notre propre logos. Mais afin de préparer la mariée, il y a aussi un point corporatif. Dans Apocalypse 19, 27, le mariage est venu et la mariée est prête. À la fin, c'est pas toi individuellement qui va être prêt ou préparé, c'est la mariée, nous tous. Il faut que nous soyons édifiés ensemble, que nous soyons préparés ensemble pour devenir la mariée. Et aussi dans Cantique des Cantiques, ça dit « Attire-moi et nous allons courir envers toi. Fuir les convoitises et nous allons poursuivre ensemble. » C'est toi qui dois prendre la décision de se fuir, mais notre but, c'est de se joindre à tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur. C'est de courir avec tous ceux qui sont attirés par lui. Donc, chers étudiants, aimons le Seigneur, pas individuellement, mais corporativement. Ce week-end, courons ensemble. Oh, combien c'est merveilleux ce week-end pour se préparer pour le mariage et nous préparer en lisant la Bible, en étant lavé dans la parole de Dieu par l'eau de la vie. Que Dieu peut être satisfait.